C'est le journal de Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Le triomphe de la gauche unie au Chili. Gabriel Boric, 35 ans, élu président face à l'extrême droite dans un pays particulièrement inégalitaire. Les restaurateurs face à Omicron, certains préfèrent baisser le rideau pour les fêtes de fin d'année devant tant d'incertitudes sanitaires. L'Arménie, après le déplacement d'Éric Zemmour, la candidate Valérie Pécresse pour les Républicains sera ce soir à Erevan, une visite aux chrétiens d'Orient en cette période de Noël. Et puis dans ce journal, retour sur la défaite des Françaises en finale du mondial de handball.
Et dans 20 minutes à 7h50, invité d'Alexandra Ben Saïd, le PDG d'Ariane Espace, Stéphane Israël.
France Inter.
Et d'abord cet énorme triomphe de la gauche unie au Chili.
Un millénium de 35 ans à la barbe épaisse, Gabriel Boric est le visage du renouveau politique au Chili. Très belle victoire de cet homme face à l'extrême droite, 56% contre 44%. Gabriel Boric, ancien leader étudiant, député à 27 ans, a su séduire des quartiers huppés de Santiago, classe populaire de banlieue de la capitale. Reportage de Justine Fontaine.
Buenas noches, Chile.
À 22h passées, Gabriel Boric a dû enjamber les barrières au milieu de la foule pour rejoindre la scène installée en centre-ville avant de saluer le public en langue autochtone. Au micro, il confirme ses promesses de réformes sociales dans la santé, l'éducation, les retraites, des domaines entièrement ou partiellement privatisés sous la dictature.
Nous ne voulons pas qu'il continue de faire de nos retraites un business et nous allons défendre un système public autonome, à but non lucratif et sans fonds de pension privé.
Il veut passer d'un système de retraite par capitalisation à un système mixte et plus généralement avancer du néolibéralisme vers un État-providence. Rosa Ahumada, 65 ans, est venue fêter la victoire de son candidat à Santiago.
C'est l'opportunité d'aller vers la nouvelle constitution et de changer notre pays. Car le Chili est beaucoup trop inégalitaire. Les injustices sont trop grandes.
Au Chili, 1% de la population, les plus riches, perçoivent près d'un tiers des revenus du pays. Mais Gabriel Boric n'aura pour autant pas la tâche facile. Le Parlement est très fragmenté et la croissance s'annonce faible l'année prochaine. Santiago, Justine Fontaine, France Inter.
Et si la route de l'Elysée passait par l'Arménie, le petit pays enclavé du Caucase, a déjà reçu la visite du candidat Zemmour. Et ce soir, c'est Valérie Pécresse, la candidate LR, qui s'envolera pour Erevan. Les deux candidats ont clairement choisi de faire ce déplacement en pleine préparation des fêtes chrétiennes de Noël dans ce pays situé au milieu de voisins musulmans. Alors au menu, Anne Souhaitemont, rencontre avec le président, recueillement au mémorial du génocide et hommage bien sûr aux chrétiens d'Orient.
Quoi de mieux qu'une terre chrétienne pour faire campagne avant Noël? Dans le camp Pécresse, on l'assure, ce premier déplacement à l'étranger était prévu bien avant celui d'Éric Zemmour. La candidate connaît bien l'Arménie, elle y a scellé un partenariat avec la région. Alors non, rien à voir avec la visite du polémiste il y a 10 jours, explique le sénateur Bruno Retailleau aux côtés de Valérie Pécresse cette semaine.
Ça n'est pas un coup, vous voyez. Nous avons des antécédents, une antériorité, nous avons des amis là-bas et les contacts qu'elle aura seront des contacts au plus haut niveau de l'État.
Un entretien entre autres avec le président, là où Éric Zemmour n'a rencontré que des parlementaires. Une Valérie Pécresse en quête de stature internationale, elle sera d'ailleurs accompagnée par Michel Barnier, et à la recherche de l'électorat Fillon. L'ancien Premier ministre s'était lui aussi rendu au chevet des chrétiens d'Orient lors de sa campagne. La candidate cherche donc aujourd'hui à mobiliser les 400 000 électeurs d'origine arménienne et l'électorat catholique. Pour autant, pas question de tomber dans les outrances d'Éric Zemmour, parlant de l'Arménie comme d'une nation chrétienne perdue dans un océan islamique. Nous faisons la différence entre islamistes et islamiques. Coupe court un pécréciste.
Anne Souhaitemont.
Sur le front du Covid, Omicron, le nouveau variant, a décidé de jouer les troubles fêtes.
Des fêtes qui ont d'ores et déjà un goût amer pour les restaurateurs. Aucune restriction supplémentaire, certes, pour le moment, mais dans ce contexte de variant galopant, les clients vont se montrer plus volatiles. Alors certains professionnels anticipent. Ils ont même décidé de ne pas ouvrir le soir du 31. Reportage de Kathleen Comte dans le restaurant Le Break, boulevard Perrère, dans le 17e arrondissement de Paris.
Fatigués par le manque de visibilité, de nombreux professionnels baissent les bras. Selon le GNI, le Groupement National des Indépendants Hôtellerie et Restauration, une grande majorité de restaurateurs envisagent de ne pas ouvrir pour les fêtes. David Zenouda gère le restaurant parisien Le Break, qui restera fermé pour le nouvel an.
On a pris cette décision à contre-cœur parce qu'on voulait vraiment pouvoir ouvrir le 31 décembre pour faire une jolie fête.
En temps normal, son établissement peut accueillir jusqu'à 70 clients, mais dans ce contexte, il a fait les comptes, mieux vaut garder porte close.
On va ouvrir, on va devoir payer du personnel en double le soir du du 31 décembre, on les paye double. Puis il faut faire un menu spécifique avec des produits qui coûtent un tout petit peu plus cher que la moyenne. Et on n'a aucune certitude de réservation. Donc c'est à coup sûr une soirée ratée. Alors encore une fois, on avait toutes les raisons d'ouvrir avec le pass sanitaire.
David Zenouda, également président de l'organisation patronale Uminuit Paris Île-de-France, est persuadé qu'il ne sera pas le seul à faire ce choix.
Je pense qu'il y aura très très peu d'établissements ouverts le 31 décembre. On a beau retourner le problème dans tous les sens, il n'y a aucune rentabilité à ouvrir le soir du 31 décembre dans ces conditions-là. Et c'est le cas dans beaucoup d'établissements à Paris. Le soir du 31 décembre, pour nous en tout cas, restaurateurs, ça va être une triste soirée.
Selon le pôle restauration de l'Union nationale des métiers et des industries de l'hôtellerie, cette année en France pour le soir du Nouvel An, les restaurateurs subissent une perte de 40% de réservations.
Kathleen Comte, autre secteur désabusé, le monde de la nuit, il espère ce matin obtenir l'annulation de la fermeture des discothèques décrétée par le gouvernement jusqu'au 6 janvier. Quelques chiffres Covid, en bref, à ce jour 20% des cas sont dus au virus mis au jour par l'Afrique du Sud. Les services de réanimation sont repartis à la hausse depuis 15 jours avec 3000 patients. 91 admissions en 24 heures, c'est certes bien moins que lors de la première vague, mais comme l'hôpital manque de bras, eh bien la France se retrouve dans une situation encore plus tendue qu'au printemps 2020. Et puis la vaccination contre le Covid-19, elle devrait s'ouvrir aux enfants de 5-11 ans dès mercredi. La Haute Autorité de Santé va rendre ses conclusions aujourd'hui. Une vaccination, rappelons-le, sur la base du volontariat, puisque les enfants ne sont pas soumis au pass sanitaire. Vaccination avec une aiguille plus fine et un vaccin dilué. Mais cela fait tout de même débat dans les familles. C'est le reportage d'Audrey Abraham de France Bleu Paris.
Sur 3 parents interrogés, 3 avis différents. Il y a ceux qui sont partants.
Moi, je pense que je vais les faire vacciner.
Cécile a 2 enfants de 7 et 11 ans.
Le grand veut se faire vacciner, et le petit aussi. Donc, c'est une question de santé publique, c'est pour les protéger eux.
Le fils de Marie a 5 ans.
Pour l'instant, honnêtement, je n'ai pas encore d'avis.
Elle est hésitante.
On va d'abord se renseigner et puis on verra. Mais après, si tout le monde le recommande, on le fera évidemment comme on l'a fait pour nous. Donc on fait confiance, il n'y a pas de souci là-dessus.
Pierre a 3 enfants en bas âge et pour l'instant, pas question de les vacciner.
C'est vrai que les enfants, j'ai un peu plus de mal à me dire qu'il faut les vacciner. C'est pas eux qui occupent les lits dans les hôpitaux, donc voilà.
Son fils, Raphaël, 11 ans, justement, est plutôt contre.
Parce que je sais pas si ça fait mal ou pas et j'ai pas trop envie d'avoir des réactions s'il y en a.
Et dans la famille, Léna, 8 ans, a aussi son avis.
Moi j'ai pas spécialement envie de le faire. Et puis j'ai le temps vu que j'ai 8 ans.
Et puis il y a les grands-parents. Patrick a 2 petits-enfants. Il laisse aux parents le choix de la vaccination. Mais à ses yeux, ça ne changera rien.
Ça ne m'empêchera pas de les embrasser et les couvrir de baisers régulièrement. Je préfère mourir en les embrassant que survivre loin d'eux.
Rappelons que pour l'instant, il n'est pas envisagé que les 5-11 ans soient soumis au pass sanitaire.
Audrey Abraham.
7h37, Laurence Thomas, la biologie moléculaire va-t-elle verdir l'industrie du textile?
Encore plus loin que la révolution de la biotechnologie pour les vaccins ou les thérapies géniques. En France, plusieurs start-up utilisent désormais des bactéries pour fabriquer des colorants plus propres. Exemple, au Génopôle d'Evry, le grand incubateur de projets de la biotech, situé en région parisienne, une start-up produit la couleur bleue pour teindre les jeans en dit dauphin.
Au milieu du laboratoire, une grosse cuve de fermentation. À l'intérieur, des bactéries qui produisent de la couleur bleue parce qu'elles ont été modifiées, notamment avec des gènes synthétiques qui s'inspirent d'une plante, l'indigo. Recette élaborée pendant de longs mois par la cofondatrice de Sinovance, start-up de biotechnologie, Eftimia Lioliou, chercheuse en biologie moléculaire.
On a des bactéries, ok, et on a modifié leur génome. Donc là, on a introduit tous les gènes nécessaires pour produire l'indigo. Donc on fait pousser ici les bactéries dans le fermentateur. Et on utilise pour matière première qui est des sucres, des sels et de l'eau. Quand les bactéries poussent et multiplient, elles ont la capacité de produire cette couleur.
Après fermentation, on obtient un liquide bleu qui sera transformé en poudre d'indigo, un colorant moins polluant que celui utilisé aujourd'hui dans l'industrie textile, explique Olivier Fouque, directeur financier de Sinovance.
L'indigo aujourd'hui qu'on a tous sur nos jeans est fabriqué à partir de pétrole auquel on va ajouter un certain nombre de produits chimiques plus ou moins toxiques. Nous, ce qu'on propose aux industriels du textile, c'est exactement le même produit fini, mais fabriqué à partir de bactéries.
Cette start-up espère ouvrir un démonstrateur industriel en 2022.
Sandy Dauphin, 208 morts, 239 blessés, 52 disparus aux Philippines. C'est le bilan provisoire du passage d'un typhon, l'un des plus meurtriers de ces dernières années. Et puis 18 700 000 euros, c'est la somme qui sera versée d'ici la fin du mois par la mission patrimoine menée par l'animateur Stéphane Bern à 100 sites sélectionnés qui avaient besoin d'une restauration urgente. Rappelons qu'un seul site est sélectionné chaque année par département métropolitain et collectivité d'outre-mer.
Et pas de victoire finale pour les handballeuses françaises.
Pas de cadeau. Après avoir dominé pendant près d'une demi-heure, les handballeuses, les Bleues, se sont effondrées en finale du Mondial, 29-22 contre la Norvège. Elles rentrent toutefois en France avec une nouvelle médaille autour du cou, Xavier Montferrand, la 7e lors des 8 dernières compétitions.
Par principe, une médaille d'argent n'a jamais le même goût pour tout le monde dans une équipe. Alors quand c'est la première, la déception a quand même un petit air de victoire pour l'ailière Alicia Toublan.
C'est ma première compétition, alors je suis quand même hyper fière d'avoir cette médaille autour du cou. C'est quand même génial de se dire, je suis vice-championne du monde, donc... Non, ça reste quand même quelque chose d'énorme.
Pour celles qui découvrent, cette finale a pesé un peu lourd. L'apprentissage n'est pas terminé et la route vers Paris 2024 n'est pas toute tracée, prévient le sélectionneur Olivier Crumbles.
Je pense que ça sera un match plein de leçons, plein d'instructions.
Si on veut être dominateur en 2024, on a un long chemin, mais il y aura un prix à payer pour être performant en 2024. Si le handball français veut réussir ses Jeux Olympiques, il faudra qu'il donne des moyens à l'équipe de France pour se préparer.
Plus de moyens, ça veut surtout dire plus de temps passé avec les filles à travailler, répéter les gammes, particulièrement la saison qui précédera les Jeux. Granollers, Xavier Montferrand, France Inter.
Xavier Montferrand qui nous a fait vivre ce mondial de handball qui se termine pour les handballeuses par une médaille d'argent. Merci Laurence Thomas. L'édito politique est à suivre.